Les synapses, briques de notre mémoire. Retrouvons notre signal électrique qui file le long de son axone, depuis le corps cellulaire jusqu'au bouton synaptique. Arrivé là, il excite des vésicules, de petites poches remplies de molécules, qui se précipitent alors vers la membrane du neurone et fusionnent avec elle, libérant leur contenu dans la fente synaptique. Ce contenu, vous en entendez souvent parler, sans toujours bien comprendre de quoi il s'agit, les neurotransmetteurs. Dopamine, noradrénaline, sérotonine, histamine, acétylcholine, etc. Pour vous mettre les idées au clair, sachez que les neurotransmetteurs sont des messagers chimiques que s'échangent les neurones. Avant et après la synapse, le message est électrique. Dans la synapse, il est chimique. Semblables à des clés, les neurotransmetteurs ne peuvent se loger que dans certaines serrures, les récepteurs membranaires du neurone cible. Généralement, un neurotransmetteur ouvre plusieurs serrures, ce qui le rend polyvalent. C'est pourquoi les mêmes noms reviennent souvent, mais impliqués dans des circuits cérébraux différents. Quand ça matche entre le neurotransmetteur du neurone 1 et le récepteur membranaire du neurone 2, un canal s'ouvre dans la membrane et laisse passer des atomes chargés en électricité, des ions. Paf ! Un courant électrique se crée de nouveau, filant de la dendrite vers le corps central du neurone 2. Si la charge électrique atteint un certain seuil, le neurone 2 s'active, état 1. Il produit alors à son tour une décharge électrique. Le message nerveux continue sa course le long des axones vers d'autres synapses et d'autres neurones. Si le seuil n'est pas atteint, le neurone 2 reste au repos, état 0, et le message nerveux arrête de se propager. Ces connexions synaptiques sont régies par la règle de Hebb. Plus un neurone active un autre neurone, plus leur connexion se renforce. En gros, la deuxième fois, la connexion est plus efficace que la première. La troisième fois, encore plus, etc. Jusqu'à former un lien solide entre les deux neurones. Il y a donc ici une notion de mémoire synaptique. La solidité du lien dépend de ce qu'il s'est passé dans le passé. Nous venons de dévoiler à l'échelle moléculaire la première brique de notre mémoire. Jusque-là, tout le monde suit ? Rappelez-vous l'image de la toile de votre souvenir avec les neurones pour fil et l'hippocampe au milieu. Lors de votre soirée, les signaux électriques ont sauté d'un neurone à l'autre, de vos organes sensoriels aux différentes aires cérébrales, créant des connexions et tissant ainsi la toile de ce souvenir, aka la trace mnésique. Votre soirée est maintenant codée dans votre cerveau sous la forme d'un réseau de neurones unique qui relie toutes les composantes de ce moment. Un souvenir égale un réseau de neurones, un réseau encore fragile. Faisons un petit arrêt sur image de cette soirée et demandons à Fabien comment commencer à renforcer des connexions entre les neurones.
Tout est lié, Michel. Et ce qui est vrai pour le souvenir d'une soirée, mémoire épisodique, souvenez-vous, l'est également pour des informations comme celles que vous mettez dans votre mémoire sémantique. La règle de Hebb nous apprend donc que réutiliser des connexions entre des neurones renforce les liens entre eux. C'est fascinant. Votre mémoire est une sorte de jungle neuronale où la végétation y est très dense. Si vous déposez une information dans cette jungle, par exemple la photo d'un acteur d'un côté et l'affiche d'un film de l'autre, vous allez d'abord devoir prendre votre machette et vous frayer un chemin jusqu'à l'endroit où vous allez déposer la photo de l'acteur, puis continuer à marcher et à créer un itinéraire jusqu'à l'endroit où vous allez déposer l'affiche du film. Maintenant, regardez derrière vous. Un chemin sur le sol existe entre ces deux objets. Si vous utilisez régulièrement ces informations, vous allez donc emprunter de nouveau ces chemins et logiquement, cette piste sera plus marquée et mieux entretenue par vos allers-retours. Mais si vous ne passez plus pendant très longtemps, alors la végétation va reprendre le dessus, rendre le trajet moins accessible, moins évident, jusqu'à parfois le rendre impraticable. Pour autant, il y a de fortes chances que la photo et l'affiche soient toujours présentes. Seulement, il est plus compliqué de les relier à nouveau. Les spécialistes de la mémoire utilisent une sorte de courbe de l'oubli, autrement appelée la courbe d'Ebbinghaus, en hommage au philosophe allemand éponyme et père de la psychologie expérimentale. En 1885, Hermann Ebbinghaus tente de mettre en relation le temps qui passe, la rétention mémorielle et la force de la mémoire. Il découvre la notion de surapprentissage qui dit que si vous revenez plus de fois que nécessaire sur une information, via un système de révision, alors vous réduirez sa courbe d'oubli, ce qui la rendra difficilement oubliable. Pour reprendre l'exemple de la jungle, adieu le petit chemin créé à coups de machette et bonjour l'autoroute goudronnée et balisée. En 1830, une enseignante britannique du nom de Favell Lee Mortimer avait déjà compris l'importance de la connexion entre les informations. Pour apprendre à ses élèves la phonétique et ses correspondances, elle fabriquait des fiches contenant uniquement les deux informations en corrélation. En 1970, Sébastien Lettner, journaliste scientifique, intègre à cette idée un système de répétition espacée afin de lutter contre la courbe de l'oubli. Ces idées combinées sont brillantes. Renforcer la rétention mémorielle, lier correctement ensemble deux informations, souvenez-vous du chapitre sur la mémoire sémantique où nous avions constaté avec l'exemple de l'Australie qu'un lien dans un sens n'est pas toujours automatique dans l'autre. Et enfin, ne pas perdre son temps à réviser ce que l'on sait déjà. Astuce 3. Comment mémoriser durablement des informations? Cette méthode consiste à fusionner l'astuce de Mortimer avec le système Lettner. Je vais vous apprendre à utiliser la capacité d'association de votre cerveau d'une manière efficace en ne révisant que ce qui est nécessaire au moment où cela est nécessaire. Le tout via un intelligent système automatique qui ne vous prendra que quelques dizaines de minutes par jour. Car dans le fond, nous sous-estimons le temps que nous passons à réviser des choses qui sont déjà acquises. Cette astuce se découpe en trois étapes. L'optimisation des données liées, via les cartes mémoire. La création du système, via une boîte à chaussures. Et enfin, le calibrage pour utiliser le tout. 1. La création des cartes mémoire. À cause de leur origine anglo-saxonne, il est courant d'appeler ces cartes des flashcards. Mais comme je suis chauvin, je vais garder l'appellation française de carte mémoire. Pour résumer, il s'agit d'abord de se munir d'une carte, d'un bristol ou simplement d'un bout de papier découpé. Il faut ensuite diviser une information en deux éléments liés et écrire un élément sur chaque face. Prenons un exemple simple. Si je veux travailler mes capitales, je vais écrire Rome sur le recto d'une carte et Italie sur son verso. Et ainsi de suite pour chacun des pays. Vous trouverez de nombreuses applications pour mobile permettant de faire des cartes mémoire virtuelles. Malgré l'aspect pratique, je vous le déconseille. En effet, l'intérêt de ces cartes réside aussi dans leur création. Pour les faire, vous êtes obligé d'y consacrer un moment, et donc de l'attention. Vous allez choisir les couleurs que vous allez utiliser, les formes que vous allez parfois dessiner, et ces étapes renforcent le souvenir du moment passé, la mémoire épisodique. Vous allez également être obligé de synthétiser les données que vous allez utiliser, de les trier, les organiser, les comprendre. Ces étapes sont également favorables à une bonne rétention, puisque vous allez stimuler vos réseaux de neurones. Enfin, vous allez écrire chacun des mots, vous allez donc utiliser un maximum de stimulation cognitive. Méfiez-vous d'un piège fréquent lors de la création des cartes mémoire. Si c'est votre première fois, vous allez avoir tendance à vouloir écrire beaucoup de choses sur chaque carte. C'est bien plus efficace de réduire les concepts à quelques mots seulement, ou avec une date ou un dessin. Une carte mémoire n'est pas un résumé, mais bien une synthèse de concepts. Vous n'allez pas apprendre en utilisant ces cartes, mais plutôt réviser et lutter contre la courbe de l'oubli. Prenons un deuxième exemple. Je lis un document sur l'histoire de France. Je m'attarde sur la période de la Révolution française et pour mieux la comprendre, je décide d'étudier comment était la société française de 1780. Le pays était divisé en trois catégories sociales, appelées les ordres. Il y avait le clergé, la noblesse et enfin le tiers-état. Ce dernier était le plus grand puisqu'il représentait 97% de la population. Les impôts n'étaient appliqués qu'aux tiers-états et chaque ordre avait des droits différents, l'accès à certains métiers ou non. Pour réaliser une carte mémoire efficace, me permettant de repasser dans les réseaux neuronaux dédiés à ce que je viens de lire, je prends une carte et j'écris sur le recto « clergé, noblesse, tiers état » en majuscule. J'ai écrit « tiers état » en majuscule pour valoriser le fait que ses membres étaient très nombreux. Sur le verso de la carte, j'écris « Société Ancien Régime, entre parenthèses, 1780, ordre ». Vous notez alors que j'ai condensé le contexte, la période et le thème de l'information qui est de l'autre côté. Lorsque viendra le moment de réviser ma carte mémoire, en la prenant par le recto, il faudra que je me souvienne du verso et inversement. 2. La création de votre système. Le système Lettner utilise plusieurs boîtes pour ranger ses cartes. Pour vous simplifier la tâche et le stockage, vous allez simplement bricoler. Pour commencer, munissez-vous d'une boîte que vous réserverez à votre système automatique, optimisé et low-tech, de révision. Vous pouvez utiliser une jolie boîte, en personnaliser une ou utiliser une simple boîte à chaussures. À l'aide de feuilles cartonnées, vous allez créer des intercalaires à placer dans la boîte afin d'obtenir 7 compartiments. Il vous faut donc 6 intercalaires. Le premier compartiment sera appelé « tous les jours ». Le deuxième, placé donc entre la première et la deuxième intercalaire, sera appelé « tous les deux jours ». Le troisième, « tous les lundis ». Le quatrième, « tous les premiers du mois ». Le cinquième, « mois 3, 6, 9, 12 ». Le sixième, « janvier et juillet ». Et enfin le septième, « septembre ». Pour terminer, placez toutes les cartes mémoire que vous avez créées dans le premier compartiment. Comme vous l'avez constaté, le niveau de bricolage n'était pas très élevé, mais encore une fois, rien ne vous empêche de donner plus de peps à votre boîte. 3. Le calibrage et la méthode. Comment fonctionne ce système? Simplement par le principe de la répétition espacée, en prenant en compte les liens qui existent entre les neurones. Le concept est de réactiver le réseau de neurones lorsqu'il s'affaiblit. Le faire au bon moment vous assure de ne pas l'activer trop tôt, alors que vous avez déjà une bonne rétention, tout en vous assurant de le renforcer à chaque fois que la courbe d'oubli est dangereusement basse. La première étape, que vous ne ferez par définition qu'une seule fois, va vous permettre de dispatcher vos cartes dans les deux premiers compartiments. Prenez la première carte du premier compartiment, lisez la partie qui se trouve face à vous. Pour l'exemple, disons qu'il s'agisse du recto. Essayez de vous souvenir de ce qu'il est écrit de l'autre côté. Une fois que vous êtes sûr de votre réponse, ou que vous êtes certain de ne pas savoir, retournez la carte et lisez le verso. Si votre réponse est correcte à 100%, alors placez cette carte telle qu'elle dans le deuxième compartiment, en premier. Cela veut dire que la partie visible est maintenant le verso. Si votre réponse est incorrecte, alors placez la carte telle qu'elle dans le premier compartiment, à la fin. Cela veut dire que la partie visible est maintenant le verso. Continuez ce processus jusqu'à ce que vous ayez manipulé toutes les cartes au moins une fois. Et maintenant, le grand final. Chaque jour, vous allez répéter ce processus avec le premier compartiment. Il y avait un bon indice, puisqu'il s'appelle « tous les jours ». Comme dans le calibrage, vous déposerez les cartes auxquelles vous avez bien répondu dans le deuxième compartiment ou vous reposerez les cartes moins maîtrisées dans le premier compartiment, en laissant toujours votre carte dans l'autre sens que celui où elle se trouvait quand vous l'avez prise. C'est ce qui va vous permettre d'alterner équitablement les deux sens de connexion de ces informations. Vous aurez sûrement compris que tous les deux jours, en plus du premier compartiment, vous allez faire la même chose avec toutes les cartes se trouvant dans le deuxième compartiment. Si votre réponse est correcte à 100%, vous placerez alors la carte, dans l'autre sens qu'au départ, dans le troisième compartiment, en premier. Si votre réponse est incorrecte, alors vous placerez la carte, dans l'autre sens qu'au départ, dans le premier compartiment, à la fin. Quoi qu'il arrive, la carte va donc changer de compartiment en fonction de la qualité de votre réponse. Et c'est ici toute la force du système. Si vous faites une erreur, vous allez devoir repasser sur la carte plus rapidement, dès le lendemain. Mais si vous l'avez bien intégrée, alors il n'y a pas d'intérêt à perdre du temps à la réviser de nouveau dans un court laps de temps. Vous ne la réviserez donc que la semaine suivante, qui est la fréquence de révision du troisième compartiment. Pour les autres compartiments, il s'agit de la même technique. Le troisième compartiment sera fait tous les lundis, avec toujours la même règle pour passer la carte mémoire au compartiment suivant ou précédent, le quatrième compartiment une fois par mois, le cinquième compartiment quatre fois par an, les mois 3, 6, 9, 12, le sixième deux fois par an et enfin le septième une seule fois par an. Plus vous maîtrisez une carte, moins vous la verrez passer. Moins vous maîtrisez une carte, plus vous la verrez souvent. Vous voilà en possession d'un système pratique, utile, accessible et complètement adapté à vos neurones pour retenir toutes les informations que vous souhaitez.
Un souvenir égale un réseau de neurones. D'ailleurs, vous vous rappelez le nombre de neurones que vous possédez ? Tic-tac, tic-tac. 86 milliards, c'est bien ça. Sachant que chaque neurone possède en moyenne 10 000 synapses, cela fait des millions de milliards de connexions, 10 puissance 15. Des chiffres si vertigineux qu'on a du mal à se les représenter.
D'ailleurs, notre cerveau ne sait se représenter que les quantités qui font partie de notre quotidien. Et encore, même là, c'est très difficile de se représenter le concept de quantité. Comment imaginer la quantité 12, par exemple? C'est pour cela que les chiffres sont durs à mémoriser. Ah, ce numéro de digicode qu'on ne retient jamais. Je vous donnerai une solution dans quelques chapitres. Et c'est toujours pour cette raison que l'on ne peut pas vraiment comprendre le sens des grands nombres. Il existe une petite astuce pour comprendre des nombres aussi gros que 10 puissance 15. Les transférer dans des unités que nous connaissons. Imaginons que nous parlions de temps au lieu de neurones. À quoi correspondent 10 puissance 15 neurones? À 277 milliards, 777 millions, 777 000, 778 heures. Pas simple, mais ça a déjà l'air plus familier. Faisons mieux en réduisant à des années. Cela fait, j'arrondis en dessous pour simplifier, 31 millions d'années. Vous avez donc dans votre cerveau autant de connexions entre vos neurones qu'il y a d'heures dans 31 millions d'années. Vertigineux. Cette petite astuce vous permettra de faire des comparaisons efficaces entre les grands nombres et à mieux les comprendre.
Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a donc des millions de milliards de branchements possibles entre les neurones, des millions de milliards de réseaux de neurones possibles, des petits, des moyens, des grands, des géants, souvent ramifiés entre eux avec pour chaque réseau plusieurs configurations possibles. Chaque neurone du réseau pouvant être soit au repos, état 0, soit actif, état 1. De quoi faire tourner la tête ou plutôt remettre la tête au carré, car cette infinité de possibilités permet d'encoder nos pensées. Je m'explique. La trace mnésique de votre soirée, on vient de le voir, est un réseau de neurones codant pour un souvenir précis, pas un autre. Sur le même principe, toute pensée laisse une trace physique dans notre cerveau sous la forme d'un réseau de neurones. Une pensée égale un réseau de neurones. Nos réseaux de neurones encodent nos pensées comme ils encodent nos souvenirs. Des millions de milliards de réseaux, des millions de milliards de pensées.
Attendez, ce n'est pas fini. Vos pensées vont et viennent toute la journée? Vos réseaux de neurones aussi. Vous ne retenez pas toutes vos pensées? Votre cerveau ne retient pas tous les réseaux. Les synapses ne sont pas figées dans le temps, bien au contraire. On a même vu avec la règle de Hebb qu'elles sont particulièrement fragiles la première fois.
Modelées par le flux incessant des stimuli, de nos expériences, de nos pensées, de nos apprentissages, de nos contraintes, de nos envies, de notre personnalité, voire de nos maladies, des synapses se créent, se transforment, disparaissent et réapparaissent. Plus ou moins et plus ou moins bien. À tout moment, même quand on n'en a pas conscience, même quand on dort, même dans le coma. C'est la fameuse plasticité cérébrale, cette capacité fondamentale de notre cerveau à créer, renforcer, transformer ou défaire nos réseaux de neurones. Des réseaux plus ou moins stables, plus ou moins sensibles à d'autres expériences passées, présentes ou futures. Une plasticité plus ou moins efficace aussi en fonction de l'âge, de notre hygiène de vie et de notre santé. Nous y reviendrons plus tard. Si nos réseaux de neurones codent nos réflexions et nos souvenirs, peut-on craquer ce code et lire dans nos pensées? Pas encore. D'ailleurs, on se pose la question. Existe-t-il un code universel, comme une langue universelle que comprendraient tous les humains, où chaque cerveau encode-t-il les informations selon son propre langage, comme une sorte de patois? Les deux, probablement. De manière générale, il doit exister des règles universelles puisque nous possédons tous les mêmes bases biologiques et physiologiques, mais dans le détail, il existe sûrement des spécificités individuelles, comme pour tout ce qui nous constitue. Si on ne comprend pas encore tout, des avancées importantes ont déjà été faites. Des chercheurs ont notamment réussi à craquer quelques codes, dont un dans l'hippocampe. Tiens, l'hippocampe, ça nous intéresse.